budget de vacances.
Il est tout juste 14h30 à Paris, l'heure de retrouver Afrique Midi, présenté par Pierre Bodias. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la guerre civile fait irruption à Port-Soudan. L'aéroport de la capitale provisoire du gouvernement soudanais touché ce matin par une attaque de drones. C'est la première fois que la deuxième ville du pays est ciblée par les paramilitaires du général Emeti. Le chef de l'armée sud-africaine dément tout échec alors que les forces de la SADC poursuivent leur retrait de Goma et devraient passer par le Rwanda. Il était en conférence de presse ce matin, vous l'entendrez. Le Niger, toujours sans nouvelles de Claudia Apt, la citoyenne suisso-nigérienne est enlevée il y a 3 semaines dans le nord du pays. Vous entendrez le témoignage d'une de ses amies qui s'inquiète des conditions de détention de la sexagénaire. Et puis nous parlerons cyclisme au Bénin en fin d'édition après le tour masculin, l'épreuve féminine. Place à la course de l'inclusion ce dimanche, cette première dans le pays. C'est notre envoyé spécial Olivier Pron qui nous en parlera. La ville de Port-Soudan n'est donc plus épargnée par les combats. Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, les paramilitaires ont attaqué ce dimanche la capitale provisoire du Soudan, assaut mené avec des drones et des frappes sur l'aéroport et le centre-ville. Pas de victimes selon les autorités. Guillaume Thibault, bonjour.
Bonjour.
La ville où siège le gouvernement du général Al-Bourhan est aussi un refuge pour de nombreux déplacés du conflit qui touche le pays depuis avril 2023.
Et les témoins évoquent une épaisse colonne de fumée au niveau de l'aéroport où les vols ont d'ailleurs été suspendus. L'armée a confirmé ce matin cette attaque des FSR, la première à Port-Soudan, et indiqué l'ennemi a ciblé la base aérienne d'Osman Dinia avec des drones explosifs, un entrepôt de marchandises et certaines installations civiles dans la ville de Port-Soudan. 600 km séparent les bases les plus proches des FSR de la capitale provisoire. Des drones de pointe, c'est-à-dire avec des capacités de guerre et de surveillance, ont été observés via des images satellites en janvier dernier à l'aéroport de Niala au Darfour. Cette attaque de drones n'est pas la première menée par les FSR qui ont visé depuis un mois des sites civils et militaires stratégiques, notamment les infrastructures électriques de la ville d'Atbara qui ont plongé l'ensemble du pays dans le noir. 10 jours après cette opération, la ville de Port-Soudan est toujours privée d'électricité et des témoins indiquent que l'armée a déployé ce dimanche matin au niveau donc de l'aéroport et de la capitale provisoire des renforts, notamment des défenses aériennes.
Les précisions de Guillaume Thibault, merci. Le Soudan qui s'enfonce dans la guerre, là où l'Est de la République démocratique du Congo espère voir les pourparlers de paix aboutir. Dans ce contexte, les forces de la SADC poursuivent leur retrait de leur base de Goma et Sake au Nord Kivu. Composée de soldats sud-africains, de Tanzanie et du Malawi, ces troupes étaient déployées depuis décembre 2023. L'Organisation d'Afrique australe a mis fin à leur mission en mars dernier. Et en Afrique du Sud, pays qui fournissait le plus gros du contingent, ce déploiement était fortement critiqué. Les responsables politiques devront désormais faire le bilan de cette opération. En conférence de presse ce matin, le chef de l'armée, le général Rudzani Mapwani, a refusé de voir ce départ comme un échec.
Ce retrait n'est pas accidentel et un retrait, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la continuation des efforts politiques qui visent à assurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Nous nous retirons donc avec la fierté de voir qu'il y a désormais des bases pour la paix, puisque le M23 s'est engagé à cesser les hostilités. Et la RDC a aussi signé cette déclaration commune avec le M23. Donc nous nous retirons désormais de manière progressive vers une zone de rassemblement qui se trouve en Tanzanie. Il faudra pour cela traverser le territoire rwandais. Cela a été discuté et négocié. Et à partir de la zone de rassemblement, toutes les forces pourront ensuite rentrer dans leurs pays respectifs. Ces mouvements ont commencé le 29 avril, lorsque nous avons fait transiter 13 camions avec 57 membres. Aujourd'hui, alors que je parle, un deuxième convoi doit partir et tous ces mouvements devraient être terminés d'ici la fin du mois. Donc nous ne fuyons pas, nous nous retirons par étapes.
Propos recueillis par Claire Bargelès. L'Afrique du Sud, qui a perdu 14 soldats au cours de cette mission, reste d'autre part engagée en RDC au travers de la MONUSCO, la force des Nations Unies dans le pays. La République démocratique du Congo, où le camp de Joseph Kabila contre-attaque après les menaces de poursuite contre l'ancien président. En milieu de semaine, les autorités ont déposé une requête au Sénat demandant la levée de l'immunité de l'ex-chef d'État en cause des accusations de collusion et de complicité avec l'AFC M23. Dans une déclaration hier, le Front commun pour le Congo, coalition de Joseph Kabila, dénonce l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Correspondance Pascal Moulégoua.
Pour l'FCC, Joseph Kabila ne peut pas être livré à la justice par les Sénats. La coalition invoque les statuts de l'ancien président et affirme que, comme pour un chef d'État en fonction, il faudra obtenir la majorité des 2/3 des votes de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès pour entamer des poursuites. Violer cette procédure, prévient les FCC, représente un risque pour la démocratie et la stabilité des institutions. Ces poursuites ne reposent selon la coalition de Joseph Kabila sur aucun indice, mais visent tout simplement à tenter de faire descendre celui qui a dirigé le pays de 2001 à fin 2018, je cite, du piédestal d'homme d'État sage. L'FCC accuse Kinshasa d'allumer de nouveaux foyers de tension alors que le pays connaît déjà une crise sécuritaire majeure. Les camps de l'ancien président notent aussi que cette initiative intervient au lendemain de l'annonce par Joseph Kabila de son retour au pays après, je cite, un exil forcé. Le Front commun pour le Congo y voit une diversion du pouvoir politiquement motivé et appelle les Congolais à se mobiliser pour défendre leurs droits et leurs libertés. Pascal Mulegwa, Kinshasa, RFI.
On vote à Maurice depuis ce matin, élection municipale dans les 5 villes du pays après 10 ans d'interruption qui avait provoqué de vives controverses sur l'île. Un scrutin qui n'attirait pas les foules à la mi-journée. À 13h, heure locale, seuls 50 000 des 400 000 électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Les 124 bureaux fermeront à 17h. RFI, il est 13h35, presque 36 à Niamey, le Niger, où Claudia Apt était enlevée il y a tout juste 3 semaines. Cette ressortissante suisse et nigérienne âgée de 67 ans kidnappée à Agadez, où elle était installée depuis plusieurs années, la ville du nord du pays, déjà témoin d'un autre enlèvement il y a 3 mois, celui de l'Autrichienne Eva Gretzmach, qui y vivait depuis 28 ans. Et alors qu'une photographie de cette dernière a été publiée cette semaine dans le média Air Info Agadez et présentée comme signe de vie, l'inquiétude des proches des deux femmes reste vive. C'est le cas d'Esther, septuagénaire française, qui s'est rendue régulièrement sur place pendant 2 décennies pour des activités associatives. Elle a pu être jointe par Magali Lagrange.
Autant Claudia que Eva étaient des femmes qui œuvraient que pour la population. Hein. Claudia, elle aidait beaucoup les artisans. Puis avec Eva, j'ai travaillé avec Eva. Enfin, elle avait un atelier de couture. Et donc, elle a appris à faire de la couture à des jeunes femmes là-bas pour avoir leur propre revenu, pour ouvrir un compte en banque. Je vous dis, je traversais Agadez avec l'une ou avec l'autre. Ben, tout le monde saluait Eva. Bonjour Eva, bonjour Claudia. Et j'ai pas pu comprendre qu'on ait pu enlever Eva et puis après Claudia. Cet enlèvement, en plus de celui d'Eva, m'a terriblement touché. Puis, ça me touche beaucoup. Puis heureusement, j'ai plein d'amis encore là-bas. Tous les jours, on m'écrit, voilà, on n'a pas de nouvelles. Et puis voilà. On espère qu'on va les libérer. On espère juste qu'elles sont bien traitées. C'est quand même des femmes qui ont un certain âge et on est beaucoup plus vulnérables. Et puis avec la chaleur qu'il y a actuellement, ça ne doit pas être facile.
Les partis politiques voulaient faire entendre leur inquiétude hier chez le voisin malien. Un appel au rassemblement avait été lancé par plusieurs dizaines de formations pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Des partis politiques sur le point d'être dissous par les autorités de la transition, censés se tenir dans une salle du palais de la culture de Bamako. Le meeting a finalement eu lieu sur son parvis, en cause de la présence d'associations pro-juntes et de forces de l'ordre qui ont empêché l'accès du bâtiment aux participants. Les explications de Serge Daniel.
Les militants de l'opposition malienne devant le palais de la culture de Bamako après avoir été empêchés d'accéder à l'intérieur par des associations pro-juntes et les forces de l'ordre. À l'est de la cohue, selon une vidéo authentifiée par des confrères présents sur place, on entend même « non à la dictature ». C'est quasiment la première fois depuis leur arrivée au pouvoir par un coup d'État que les militaires maliens sont publiquement défiés, décriés. Dans la foule, parmi les manifestants réclamant le retour à l'ordre constitutionnel d'importantes figures du mouvement démocratique malien. Les témoins ont reconnu par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale Ali Noum Diallo ou encore l'ancienne ministre Madame Si Kadiatou Sow. Également présents, de jeunes leaders de la classe politique. L'un d'eux témoigne au micro de confrères locaux.
Nous sommes venus, comme tous les démocrates, comme tous les citoyens, comme tous les patriotes qui se soucient de l'intérêt des libertés individuelles et collectives, du respect des lois de la République.
Il ajoute, le combat pour la défense du multipartisme continue. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est justement ce qui était célébré au même moment dans le stade d'Angodje au nord de Libreville. C'est là et devant quelques 40 000 Gabonais que le président Brice Clotaire-Oligui Nguema a officiellement pris ses fonctions. Élu avec une très large majorité lors de la dernière présidentielle, l'ancien putschiste a prêté serment en présence d'une quinzaine de chefs d'État du continent. Le reportage d'Yves-Laurent Gomard.
Debout dans une voiture au toit ouvert, Brice Clotaire-Oligui Nguema fait son entrée. Depuis la tribune où ils suivent la cérémonie, Hélène Ngonga et Steve Minza casquettes et t-shirts à l'effigie du président font part de leur émotion.
Ça donne des frissons, c'est beau, c'est magnifique.
À la suite de l'acte de bravoure et patriotisme qu'il a eu à poser le 30 août, c'est ce qui lui donne de manière naturelle carte blanche pour arriver là où il est aujourd'hui.
Le président prête serment devant la Cour constitutionnelle et reçoit ensuite les attributs du pouvoir. Dans les gardens du stade, l'heure est à l'espoir.
Il va commencer cette année avec beaucoup de défis. Mais je pense que s'il continue avec la même vigueur qu'il avait au départ, et s'il met un peu plus de rigueur, s'il y a la sanction, je pense qu'il pourra réussir.
Mais cette prestation de serment est aussi l'occasion pour d'autres Gabonais de mettre en garde le nouveau président.
Mais qu'il ne nous trahisse pas en devenant dictateur. Qu'il continue à faire ce qu'il a commencé à faire, c'est ce qu'on attend de lui.
Le peuple a confiance en lui. Il n'a pas à s'orienter vers une quelconque dictature.
Un défilé militaire marqué par un saut des parachutistes a clos la cérémonie. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Les entreprises chinoises contournent-elles la législation au Congo, Brazzaville? Oui, selon l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme. Elle a publié hier une enquête menée ces derniers mois auprès de 4 entreprises essentiellement chinoises, donc des sociétés qui exploitent notamment le pétrole et les mines dans 3 départements du sud du pays. Et le constat est préoccupant, une absence de consultation des populations et le manque d'études environnementales et sociales. Blanchard Cherotti Mavungu, son président, détaille les résultats de cette enquête au micro de Loïcien Martial.
Les entreprises là, les entreprises qui ont pu obtenir des permis d'exploitation ou les autorisations auprès du gouvernement n'ont pas consulté ces populations. Donc ils n'ont pas réalisé ce que nous appelons le CLIP, les consentements libres informés préalables. Parce que préalable, avant de mener un projet, on doit consulter les populations. Et leur consentement doit être libre, doit donner leur avis pour dire qu'on veut que le projet s'exécute ou non. Donc ces populations sont libres. Cela n'a pas été fait. Et aussi les études d'impact environnemental et social, ça n'a pas été fait. Donc c'est ça que nous avons constaté sur le terrain, d'où il y a eu beaucoup de conséquences. La pollution de l'eau, par exemple, quand vous arrivez à Timinzi, Chitanzi, là, Wingwa, chaque soir, ils ont des produits toxiques qu'ils pompent chaque soir. Et ça dégrade les toitures des populations. Et les populations ne peuvent pas rester à partir de 18h dans les cours de leur parcelle ou dans le village. Ils sont obligés de s'enfermer dans les maisons. Et chaque 3 mois, ils sont obligés de payer d'autres tôles pour échanger les toitures de leur maison.
RFI, il est 13h42 à Cotonou. La grande semaine du cyclisme au Bénin, ça se termine aujourd'hui. Grand Prix international de la ville de Cotonou ce dimanche. Mais au moment où on vous rejoint, place des Amazones, Olivier Pron, pour la première fois dans le pays, c'est une course de l'inclusion qui va se tenir.
Oui, elle est partie il y a quelques instants, cette première course, ce premier Grand Prix de l'inclusion ici au Bénin. Et c'est tout, Pierre, sauf anodin. Écoutez bien, ils sont 10 coureurs, pas plus. 8 hommes et 2 femmes avec un matériel que je ne vais pas tout à fait vous décrire parce que si vous avez regardé les Jeux paralympiques en septembre dernier à Paris, vous vous diriez en comparant avec ce matériel qu'on a sous les yeux ici depuis quelques minutes, waouh, il y a une grosse différence. Oui, oui, ils sont là avec leur fauteuil roulant, leurs moyens à eux, mais ça n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte, c'est qu'ils aient pris le départ de cette course qui va durer quelques kilomètres, quelques minutes, là encore, peu importe. Ils sont sous le regard des gens, ils sont mis en avant et c'est là l'essentiel. Être vu, faire bouger les choses, changer les regards, montrer qu'avant le handicap, il y a d'abord un homme ou une femme. C'est ce qu'ils m'ont dit. On a pu discuter de longues minutes juste avant le départ et le point commun, c'était la fierté d'être là pendant quelques minutes, de tout donner pour, pourquoi pas, être repéré, devenir un para-athlète et un jour, c'est leur rêve. Et bien disputer les Jeux paralympiques et tout ça contemplé par cette Amazone géante de 30 mètres de haut qui doit être bien fière de les observer.
Olivier Pron, merci à vous. Vous étiez avec nous en direct depuis Cotonou. C'est vous qui nous avez fait vivre cette semaine de cyclisme au Bénin. Et puis, coup d'envoi dans un peu plus de 2 heures d'un derby entre les deux géants en panne de résultats au Ghana, celui entre les Heart of Oak et la Chanté Kotoko. Plus d'une vingtaine de championnats de football à eux deux, respectivement 4e et 6e du championnat. Les deux clubs s'affrontent donc aujourd'hui dans l'espoir de retrouver les sommets. Confirmation avec l'actuel entraîneur des Heart of Coach, Aboubakar Ouattara, autrefois entraîneur de la Chanté Kotoko dans les années 90.
Ces deux clubs prestigieux avec un passé et glorieux ont eu un passage à vide ces 3-4 années passées, dû au changement perpétuel des joueurs d'encadrement à tout moment. Et ça fait qu'il n'y a pas eu de stabilité et il n'y a pas eu de projet continuel. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, que ce soit à la Chantikotoka ou à Sofok. Nous luttons pour pouvoir avoir quelque chose de plus prestigieux. Aujourd'hui, le haut du tableau est tenu par des équipes qui sont pas très populaires. Nous, cette année, que ce soit le Asofu et le Kotoko, nous essayons de rester en haut du tableau. Nous luttons et c'est ce qui fait cet engouement pour ce match retour.
Propos recueillis par Tété Hadji, Heart of Oak, Ashanti Kotoko, coup d'envoi à 15h, temps universel.
Afrique Midi, Pierre Boudias.
Ah, il est 12h45, temps universel, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Comme tous les dimanches, nous arpenterons les chemins de l'écriture avec Tiktankar Chanda. Retour aujourd'hui sur l'œuvre de Valentin Yves Moudimbe, l'auteur congolais décédé en avril dernier, laisse derrière lui une œuvre pléthorique. Vous l'entendrez, et puis c'est une invitation en coulisses que nous propose cette semaine Maria Alfonso, plongée dans l'arrière-boutique de l'Opéra de Paris alors que le Palais Garnier fête ses 150 ans. Rencontre aujourd'hui avec la costumière en chef de la célèbre institution. Merci d'écouter RFI. On va tout de suite prendre la direction du Togo. L'Afrique en marche tous les dimanches sur RFI pour mettre en valeur ces initiatives qui font avancer le continent africain. Focus aujourd'hui sur le handicap en milieu scolaire, une situation bien souvent synonyme de parcours du combattant pour les élèves concernés, mais qui n'est pourtant pas une fatalité. C'est ce que l'ONG Handicap International réussit à démontrer avec un programme d'éducation inclusif au Togo en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Les formateurs éducatifs de l'association se donnent les moyens d'aller au-devant des élèves et des familles pour que ces enfants puissent recevoir une éducation normale. L'Afrique en marche avec Frédéric Gara.
L'Afrique en marche.
Depuis 3 ans, Handicap International a lancé dans les régions des savanes et de Kara, dans le nord du Togo, un programme permettant aux jeunes handicapés de suivre une scolarité normale. Jusque-là, peu de moyens ont été mis à leur disposition, qu'ils soient sourds, aveugles ou déficients mentaux. Mais le premier obstacle à franchir, nous explique Bénédicte Larré, responsable du programme, était ailleurs. Il s'agissait des parents qui souvent refusaient de scolariser leurs enfants par honte ou bien par manque de moyens. Bénédicte Larré.
Le point de blocage premier, c'était vraiment le manque d'estime de soi des enfants et jeunes handicapés et aussi des parents. Pour eux, quand un enfant naît handicapé, c'est qu'il est bon à rien. Il ne peut pas être dans la communauté comme les autres. Il ne peut pas apprendre comme les autres. Et c'est un enfant qu'on cache. La pauvreté venait jouer aussi un rôle. Le parent, quand il se retrouve avec 2 ou 3 enfants parmi lesquels il y a un enfant handicapé, il va privilégier les enfants non handicapés parce qu'il a les ressources limitées. Et le troisième critère, c'est qu'en fait, même si certains parents avaient la volonté d'envoyer leur enfant, les structures ordinaires et publiques n'étaient pas prêtes à accueillir les enfants handicapés, peu importe leur type de handicap.
L'approche globale du programme permet donc de convaincre parents comme enfants d'aller à l'école, mais surtout de former des encadrants itinérants qui se déplacent de classe en classe en soutien scolaire, notamment dans les écoles des villages moins favorisés. Yao Bledjo, enseignant itinérant à l'école primaire publique Bogoussé, dans la zone venteuse des savanes.
Fait un gros travail ici dans la région des savanes en matière d'éducation inclusive. D'abord, c'est grâce à eux que nous sommes devenus professeurs itinérants sur la base d'un concours. Nous étions déjà fonctionnaires sur le terrain. Quand ils ont lancé ce concours, on a participé, on a été retenus. Après ça, ils nous ont formés sur les différentes thématiques du handicap. Et après, ils nous ont envoyés n'est pas dans les écoles spécialisées pour stage, pour pouvoir approfondir notre spécialité. Du matériel pédagogique adapté aussi bien pour l'inspection que pour les écoles inclusives. Et le même système de professeurs itinérants est mis sur pied aussi au niveau secondaire par Handicap International.
Non seulement ce programme forme les professeurs à la pédagogie liée au handicap, permet aux élèves de ne pas stagner à l'école, mais il redonne aussi à l'ensemble du groupe du lien, un lien tissé par la scolarité. Bénédicte Larré.
Du coup, c'est des enfants qui socialement sont épanouis, qui apprennent comme les autres, qui réussissent même mieux que les autres. Combena, dont je te parlais, elle est toujours la première de sa classe depuis le primaire. Hein. Et elle se fait respecter par les enfants non handicapés parce qu'elle maîtrise, elle sait expliquer, elle sait répondre et elle sait motiver les autres à apprendre. Et donc, la cohésion sociale est installée. Les parents des enfants handicapés sont aujourd'hui dans les réunions des associations des parents d'élèves. Il y en a qui prennent les responsabilités et ils ont leur mot à dire.
Combena est non-voyante. Elle fait partie de ces élèves qui se sentent valorisés par ces programmes adaptés au handicap.
Pour nos professeurs, ils nous ont bien encadrés depuis le primaire jusqu'au collège. Il y a l'anglais, la philosophie, l'allemand,
Et vous parlez allemand? Vous avez appris à parler allemand alors?
J'ai appris à parler l'allemand, mais c'est un peu. Wie heißt du? Woher kommst du? Ça veut dire comment vous vous appelez et d'où venez-vous?
Kobena sait comment elle s'appelle et surtout où elle veut aller. Après son bac, annonce-t-elle, cette jeune Togolaise envisage de poursuivre ses études supérieures en France. Depuis que ce programme scolaire d'intégration existe, il a formé plus d'une centaine de professeurs togolais à l'enseignement d'enfants handicapés dans 15 collèges et écoles primaires. Pas moins de 1600 enfants handicapés ont ainsi pu suivre la même scolarité que leurs camarades de classe.
Frédéric Gara, l'Afrique en marche, tous les dimanches sur RFI, à retrouver sur RFI.fr.
L'Afrique en marche.
Nous sommes le samedi 4 mai sur RFI. L'actualité internationale, c'est la branche armée du Hamas qui salue le tir d'un missile des Yéménites Houthis dans l'enceinte de l'aéroport de Tel Aviv. L'engin n'a pas fait de victimes mais a provoqué une interruption du trafic aérien. Le gouvernement israélien menace de frapper 7 fois plus fort après ce bombardement. Les Roumains de retour aux urnes ce dimanche, élection présidentielle dans le pays, 5 mois après l'annulation du premier scrutin pour cause de soupçons d'ingérence russe. Le vainqueur de l'élection de décembre dernier, Calin Georgescu, a été exclu de cette élection par la Cour constitutionnelle. Et puis Xi Jinping se rendra bien en Russie du 7 au 10 mai prochain. Le président chinois assistera en compagnie de Vladimir Poutine aux célébrations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Visite qui interviendra au même moment d'une proposition de trêve adressée à l'Ukraine et pour le moment rejetée. C'est vers un hommage que nous mènent ce dimanche les chemins de l'écriture, celui que Tirthankar Chanda rend aujourd'hui à l'écrivain congolais Valentin-Yves Moudimbe. Il s'est éteint dans la nuit du 21 au 22 avril dernier à l'âge de 83 ans. Philologue, romancier, poète, anthropologue, philosophe, professeur, Valentin-Yves Moudimbe a profondément marqué la pensée contemporaine africaine. Son ouvrage « L'invention de l'Afrique » a été récemment traduit en français par les éditions Présence africaine. Tirthankar Chanda lui consacre donc sa chronique littéraire.
La philosophie est grecque en termes de tradition, ses fondements conceptuels et sa diffusion. Les civilisations non occidentales ne sont pas, elles non plus, dépourvues de systèmes de connaissances. En Afrique ou en Amérique latine, par exemple, il existe des systèmes de savoir organisés selon l'exigence rationnelle d'unité.
La voix que l'on vient d'entendre est celle de l'écrivain congolais Valentin-Yves Moudimbe. Son œuvre touche des domaines aussi divers que la philosophie, la littérature, l'anthropologie, la sociologie ou encore la philologie. Bref, un auteur inclassable en dépit d'une continuité thématique d'un livre à l'autre. Moudimbe réfléchit sur les modalités de la construction des savoirs en Afrique et sur l'Afrique. C'est le thème de son essai philosophique « L'invention de l'Afrique » que le Congolais vient de faire paraître en français aux éditions Présence africaine. Philosophe, mais aussi romancier et poète, Moudimbe est né dans le Congo belge. Formé par des frères bénédictins, le futur écrivain était voué à la prêtrise, mais il renoncera à la vie religieuse et ira en Belgique pour suivre des études de philosophie. Devenu universitaire à son retour au pays, il supporte mal le tarissement de la vie intellectuelle sous Mobutu. Il quittera le Zaïre en 1979 pour les États-Unis, où il a depuis fait une grande carrière universitaire, comme l'explique Bernard Mouralis, professeur de littérature francophone à Paris.
Il était dans une situation très difficile parce que est-ce qu'on peut être philosophe sous le régime de Mobutu? Il avait un poste très important sur le plan académique, mais il a refusé certaines compromissions et il a refait sa vie très courageusement aux États-Unis. Progressivement, sa figure en tant qu'universitaire s'est affirmée. Il est devenu quelqu'un de connu par ses livres.
Moudimbe est entré en littérature au début des années 1960. En publiant des recueils de poésie au titre emblématique de sa conscience déchirée, déchirure, fulgurance d'une lézarde ou encore les fuseaux parfois. Sa poésie s'inspire des crises et des tragédies humaines que le Congo belge a connues au moment de l'indépendance avec la mise à mort de Lumumba et la sécession du Katanga. Bernard Mouralis.
Les poèmes sont marqués par une expérience existentielle primordiale qui est celle de la déchirure, de la souffrance, car évidemment, les conditions d'indépendance du Congo belge ont été bouleversantes pour les populations.
L'œuvre romanesque de Moudimbe, formée de 4 titres, se nourrit aussi de cette expérience de déchirure collective, doublée de la déchirure individuelle de l'auteur. C'est notamment le sujet du premier roman quasi autobiographique de Modimbe, Entre les eaux, paru en 1973. Après un second roman intitulé Le bel immonde, qui plonge le lecteur dans le Congo des ténèbres sous Mobutu, Modimbe donne avec son troisième roman, L'écart, l'un de ses ouvrages de fiction les plus réussis. La fiction ici rejoint la dérive de la vie intellectuelle en Afrique. À travers l'histoire de son personnage principal, Nara, engagé dans une recherche anthropologique visant à décoloniser les connaissances établies, le romancier met en scène le drame de l'intellectuel en Afrique, incapable de s'instaurer en sujet face à l'Occident, à la fois dominateur et maître des outils de sa contestation. Penser contre l'Occident est encore occidental, écrit Modimbe. La tragédie de l'homme dominé est le véritable sujet de l'œuvre du Congolais. Une tragédie qui se déploie tant dans ses ouvrages proprement littéraires, tout comme dans ses essais philosophiques, que nous évoquerons plus précisément la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette chronique consacrée à l'un des auteurs africains peut-être les plus universels par la profondeur historique de sa vision.
Tirtankar Chanda et l'invention de l'Afrique de Valentin-Yves Boudimbe, donc à retrouver dans les librairies aux éditions Présence Africaine. C'est l'un de ces monuments qui a pu faire dire à certains que Paris était la plus belle ville du monde. Le palais Garnier, véritable chef-d'œuvre du Second Empire, célèbre son 150e anniversaire cette année. À cette occasion, 100% création de Maria Afonso vous propose une rediffusion en 3 épisodes des coulisses de l'Opéra National de Paris. Nous avons rendez-vous avec celles et ceux qui sont souvent invisibles au devant de la scène et pourtant indispensables à la réalisation de chaque représentation. Aujourd'hui, Suzanne Danguel, responsable de production des costumes de l'Opéra de Paris.
La créativité en général, je dirais, ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est toujours une sacrée assurance pour le bon goût.
Suzanne Danguel est née en Allemagne. Elle s'y est formée au métier de la scène. Venue faire un stage par curiosité à l'Opéra de Paris, elle est restée en contact et y est revenue en 1991 pour ne plus quitter cet univers unique.
Déjà, j'adore la danse. J'étais aussi un petit rat sans ambition, hein, jusqu'à 15 ou 16 ans, ouais. Ce que j'ai trouvé ici, hein, déjà une équipe formidable. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur un ballet qui va rentrer en répertoire sur les origines de Londres. Et c'est une production qui date des années 70. Reproduire le plus proche possible, c'est un sacré défi, hein, ça. Par exemple, l'urex, des dentelles l'urex, c'est pas très à la mode. Maintenant, on rajoute partout des paillettes et des perles. Et on essaye de trouver autre moyen, par la broderie, ou par-ci, par-là, il faut faire des concessions. Hein, ça. Mais il faut énormément de patience, persévérance, je dirais même jusqu'à la passion. Hein. C'est pas donné à tout le monde. On n'est jamais complet, on apprend toujours. Hein, ça. Heureusement d'ailleurs, on a besoin de ça. Il faut d'imagination pour voir ce que ça peut donner au final. Ce qu'on fait en peu de temps, quelquefois c'est magique. On ne peut pas dire oh non, on n'est pas prêt, personne ne va comprendre. Ça ne passe pas.
Suzanne Danguel reconnaît l'exigence de son métier, à la fois passionnant, difficile, mais toujours gratifiant.
À une première répétition, si le danseur déjà est content dans son costume, si le chorégraphe est content avec le résultat, ça me va. Si on peut assister à la première et les autres soirs, si au bout, le public debout, là, je trouve que c'est un peu une récompense. C'est magique, ce moment, pour tout le monde. Et ça récompense pour tout, hein. Ça, on oublie tout. C'est comme si je suis sur scène aussi, hein. Ça porte.
Retrouvez Suzanne Danguel, responsable de production des costumes de l'Opéra de Paris, sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Et merci Maria Afonso, c'est vous qui venez refermer cette édition d'Afrique Midi. Karine Franck et Pierre Vallée étaient à la préparation, Mickaël Goncalves à la réalisation. Dans un instant, le retour de l'actualité internationale sur la Radio du Monde.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
sage-femme humanitaire au Tchad, reportage de Raphaël Constant.
Mardi,
proposer des soins de santé adaptés aux enfants victimes de violences.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
semaine, on se demande où vont les larmes qui ne coulent pas. On se projette dans des mondes virtuels où la vie est éternelle et on fait le point sur l'augmentation bien réelle des places de concert. Et tout ça en musique, bien sûr.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.